Vous êtes sur RTL.
RTL Soir avec vous, Julien Cellier, bonsoir.
Bonsoir Myriam, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Ça y est, c'est parti pour deux heures d'infos tous ensemble. Alors ce soir à la une, le spectre d'un jeudi noir. 75% des enseignants pourraient faire grève après-demain dans RTL Soir. Parole aux parents, aux profs et à Emmanuel Macron. Et puis la brigade RTL va pousser les portes justement d'une salle de classe. Capteur de CO2 en main, vous l'entendrez, les résultats sont assez effarants. Les parents d'élèves, tiens, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le virus, les réseaux sociaux de RTL vous attendent et notre invité de 18h15 y répondra. C'est un virologue de renommée mondiale, Christian Bréchot, s'il vous plaît, pour vous servir. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal, Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Son agression a suscité beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux, traîné sur plusieurs mètres par un automobiliste illégal. Vous entendrez son témoignage. Peut-être un nouveau rebondissement incroyable dans l'affaire Jubilard. Et puis les homosexuels vont pouvoir donner leur sang sans période d'abstinence. Ça faisait 40 ans qu'ils attendaient ça. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 11, le 8, l'As, le 2 et le 4.
Après 18h30, les dessous de l'actu RTL a partagé aujourd'hui le quotidien sur le terrain d'une députée menacée de mort. À 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu différemment, autrement, on peut le dire, avec Cyprien Signy et la fille. Une équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu s'il vous plaît.
Ce soir, on va vous expliquer ce qu'il se passe scientifiquement et biologiquement dans le cerveau des candidats à la présidentielle. Stress, coups bas, nuit sans sommeil, sont-ils faits comme nous? Vous allez l'entendre, c'est assez fascinant. Au menu également, le ministre de l'à peu près et tous nos conseils pour avoir votre statut au musée Grévin.
19h15, on refera le monde autour d'Éric Brunet, on refera notamment le protocole sanitaire à l'école, évidemment, et puis des points météo tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Un temps sec demain mais froid.
On détaille tout ça dans quelques instants.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier.
Alexandre de Saint-Aignan.
Victime de la violence gratuite, il avait été traîné sur plusieurs mètres par un automobiliste hilar dimanche dernier à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Blessé, hospitalisé, sous le choc, voici le témoignage de cet homme. Il s'appelle Ali, il a 67 ans.
Tous les jours, je me lève de bonne heure pour aller consommer mon café à la pyramide parce que j'aime pas faire du café à la maison. Et là, il y avait, je crois, 4 gars qui étaient stationnés dans une voiture. Ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé une cigarette. Je lui ai dit, je vais te l'offrir. Le gars qui conduisait, je crois le connaître de vue. Il m'a saisi la main et il m'a entraîné avec lui. Il a accéléré la voiture sur 100 mètres. Au bout de 100 mètres, il m'a lâché. Je suis tombé la face contre le macadam. J'avais des contusions, du sang qui coulait. Et après, il s'est révélé que j'avais fracture de l'épaule, fracture du pied, et genou raflé, une échymose au nez et à l'arcade sourcilière. Et comment dire, ces jeunes, je les avais vus que 5 minutes auparavant, même pas, devant la pharmacie un peu plus haut, ils rigolaient à forte voix. Alors je sais pas s'ils étaient drogués, je sais pas ce qu'ils avaient. Ce que j'ai, c'est que j'ai peur des représailles, parce qu'apparaît-il, il y a un grand frère qui est encore plus bandit. Je me méfie, quoi. Ah, bah, il y en a qui font ça. C'est ignoble.
Voilà un témoignage recueilli par nos confrères de M6 à retrouver ce soir dans le 19h45. Pour rappel, l'agresseur a été rapidement identifié, interpellé. Lui et un de ses amis ont été placés en garde à vue pour violence avec arme en réunion et avec préméditation.
RTL, 18h03, la colère gronde chez les enseignants à deux jours maintenant d'une grève qui s'annonce massive.
75% de grévistes jeudi prochain selon le premier syndicat des profs. La moitié des établissements seraient fermés selon ses prévisions. Emmanuel Macron est monté au créneau cet après-midi pour défendre le nouveau protocole sanitaire dans les écoles.
Je pense qu'il faut qu'on s'arme tous un peu de patience, de bienveillance. Ce que le Premier ministre a annoncé hier est une mesure de simplification qui enlève certaines contraintes. Je sais ce que nous demandons aux enseignants, je sais ce que nous demandons aux parents d'élèves, je les en remercie. Il n'y a pas de système parfait, donc il faut de la patience, du pragmatisme à chaque fois, d'ajuster les choses. Et j'ai bon espoir que nous puissions cheminer avec le plus de bienveillance possible. Je sais qu'il y a de la lassitude, je sais qu'il y a parfois de l'énervement. Je pense que nos enfants et nos adolescents sont la chose la plus importante et donc on doit continuer de veiller sur eux avec voilà, le plus de bon sens et de précautions possible.
Emmanuel Macron qui s'exprimait depuis l'Elysée tout à l'heure avec Bénédicte Tassard pour RTL.
Alors revenons sur ce nouveau protocole sanitaire parce que peut-être que certains parents ont raté des épisodes en route, ça change tous les jours. Si un élève est testé positif désormais, ses camarades n'auront plus besoin d'un test PCR ou antigénique en pharmacie.
Ouais, il suffira entre guillemets de faire 3 autotests et les parents signeront une attestation sur l'honneur. Dimitri Ramelot, vous vous êtes rendu à Metz devant l'école Le Graouli. Les parents d'élèves ont un peu de mal avec ces nouvelles consignes.
Oui, devant l'établissement, en attendant la sonnerie, certains parents, comme Mathilde, un peu perdus, tentent encore de comprendre les nouvelles consignes.
Trois protocoles en 10 jours d'école, ça fait beaucoup. Ils ne veulent absolument pas fermer les écoles pour faire en sorte que les parents puissent aller travailler et que les enfants continuent de pouvoir être en classe. Je voudrais juste qu'on ne joue pas avec la santé des enfants non plus.
Et cette maman, une fois son fils récupéré, de partir à la pharmacie se fournir en autotest, car sa fille est cas contact, comme celle de Ludovic, qui lui stigmatise la fin des tests PCR obligatoire.
Pour aller léger les labos, ça va être très pertinent parce que beaucoup de parents déjà, comme ils ne vont pas trouver d'autotest, ils vont faire des attestations sans faire les tests pour envoyer les enfants à l'école. Ça va alléger les labos, ça c'est certain, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose.
Et les parents rencontrés, souvent fatigués de la situation, espèrent ne pas devoir suivre un nouveau protocole dans les tout prochains jours.
Dimitri Ramelot à Metz pour RTL. Comme le disait ce parent d'élève, ce nouveau protocole sanitaire dans les écoles devrait réduire la pression sur les tests. Alors qu'en France, 350 000 nouveaux cas ont été détectés dans les dernières 24 heures. Les laboratoires et les pharmacies tournent actuellement à près de 10 millions de tests par semaine.
Alors face à cette demande, dimanche dernier, le gouvernement annonçait un plan de renforcement des capacités de tests, notamment l'installation de plusieurs centaines de centres de dépistage près des centres de vaccination. Vous avez pu en tester un, si je puis dire, pour nous à la mairie de Tourcoing, Franck Hanson.
Oui, dans la grande salle des fêtes de la mairie, de chaque côté, deux lieux d'attente avec des cloisons séparées, vaccins ou tests, sans rendez-vous. Pour l'instant, pas trop de bousculades, mais des renforts appréciables, selon Rosa Zribi, responsable infirmière.
On a voulu répondre à la demande du public pour pouvoir justement alléger le flux qui est à l'extérieur. Il y a deux équipes bien distinctes, mais bon, qui gèrent les deux flux. Si la charge de travail au niveau de la demande, au niveau des tests antigéniques augmente, les collègues qui sont là en vaccination vont systématiquement aider sur le centre de dépistage. Ça tourne bien.
Vous avez des symptômes ?
Certains soignants craignent un trop grand brassage dans ce type de centre mixte, mais qu'ils viennent pour une piqûre ou un écouvillon dans le nez. Les patients saluent le côté pratique.
Je suis venue ici pour me faire tester, pour reprendre mon vol ce soir. Oh, c'est sympa comme locaux, hein. Ça change.
Pour le vaccin, c'est pratique. Ça a été rapide, oui.
Je suis tourquenois, donc après c'est une mairie que je connais bien. Ça brasse plus de monde, quoi, à la fois le vaccin.
Ça peut être gênant, mais voilà, encore une fois, ils ont pas le choix. Il y a tellement de demande.
On se protège.
Ce centre tourquennois reste ouvert toute la semaine jusqu'à 18h, pas forcément réservé aux habitants.
Le reportage signé Franck Hanson pour RTL. Du côté de la campagne de vaccination, à quelques jours de l'entrée en vigueur du pass vaccinal, de plus en plus de non-vaccinés franchissent le pas. Ils étaient 280 000 la semaine dernière, 74% de plus en une semaine. Il reste désormais moins de 5 millions de Français non-vaccinés.
Allez, dans un instant, dans ce journal sur RTL, coup de bluff ou coup de théâtre dans l'affaire Jubilard. Pour les avocats de Cédric Jubilard, l'infirmière a disparu volontairement. Il dévoile d'ailleurs plusieurs éléments, vous allez l'entendre tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, 18h09, vous écoutez RTL. Et cette question, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard est-elle sortie de chez elle de son plein gré ?
C'est en tout cas ce que la défense de Cédric Jubilard tente de prouver. La cour d'appel de Toulouse examinait tout à l'heure la nouvelle demande de remise en liberté du principal suspect. Et ses avocats en ont profité pour dévoiler plusieurs preuves nouvelles qui figurent dans le dossier, Patrick Tégéraud.
Oui, c'est le coup de théâtre du jour. Une photo prise lors de la perquisition le lendemain de la disparition de Delphine Jubilard montre son pyjama décoré de petits chats, soigneusement plié et posé sur la table du séjour avec petite culotte et chaussettes par-dessus. À côté, il y a son sac à main qui est ouvert et une boîte de bas ouverte elle aussi. Maître Jean-Baptiste Allary défend Cédric Jubilard.
Un travail très minutieux du dossier nous a permis de découvrir qu'il est très probable que Delphine se soit changée ce soir-là et quitté le domicile.
Et il y a d'autres éléments qui vont dans ce sens. Pour les parties civiles, ce ne sont que des détails. Maître Laurent Boguet représente les enfants Jubilard.
Les parties se sont exprimées, la défense dénonçant la vacuité d'une enquête et les autres parties, l'accusation et les parties civiles, échangeant effectivement des considérations sur, au contraire, le caractère sérieux d'un certain nombre d'indices graves et concordants qui justifient en toute hypothèse que des investigations se perpétuent.
Alors la Chambre de l'instruction rendra sa décision vendredi, mais il y a peu de chances que Cédric Jubilard soit remis en liberté, car on a appris aujourd'hui que, fort opportunément, il est convoqué devant les juges d'instruction le mois prochain.
À Toulouse, Patrick Tégéraud pour RTL.
Une décision que les homosexuels attendaient maintenant depuis près de 40 ans. Ils vont enfin pouvoir donner leur sang dans les mêmes conditions que les hétérosexuels.
Jusqu'à présent, ils devaient justifier d'une période d'abstinence sexuelle de 4 mois. Sans ça, aucun don possible. Mais le ministère de la Santé vient de l'annoncer. Ce sera fini à partir du 16 mars prochain. Fabrice Pilorger, responsable du plaidoyer pour l'association AIDS.
Nous ne sommes pas réservés sur le fait qu'on fasse évoluer les critères de sélection des donneurs, mais on est réservés sur une forme de ce que nous on considère comme une forme de précipitation. Un homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes a 200 fois plus de risques qu'un homme hétérosexuel par rapport sexuel de contracter le VIH. D'où nos inquiétudes. On n'est pas contre l'évolution. Pour autant que ça n'occasionne pas de risque. Si ce risque se mettait à augmenter, ou réaugmenter, alors qu'ils diminuent de façon constante depuis 2012, ce serait un vrai problème. Ils vont mettre en place une surveillance renforcée et on peut faire confiance aux agences. Mais dans la mesure où c'est un risque évitable, le fait d'accepter cette incertitude ne nous convient pas.
Voilà l'enthousiasme très prudent de Fabrice Pilorger, responsable du plaidoyer pour l'association AIDS. Il répondait à Sophie Jousselin pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Première question. Qui a immortalisé
le trio mythique qui a marqué les années 80, 90 et même les années 2000, les Inconnus, de retour au cinéma, à la télévision et peut-être même sur scène. C'est Didier Bourdon lui-même qui l'annonce ce matin dans Laissez-vous tenter.
On a envie de faire quelque chose. Après, voilà, c'est le timing. C'est chacun, on a bien sûr nos propositions en solitaire. Mais moi, je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire. Je pense surtout sur scène. Après, ça fait peur un peu. C'est vrai que ça fait peur. Mais en tout cas, voilà, c'est dans l'air. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'on pourrait prendre les anciens sketchs, les revisiter. Puis autour de la table, je pense qu'on trouverait d'autres idées, etc. On se voit bientôt, là, à la fin du mois. Le jour de mon anniversaire, logiquement, le 22.
Je vous donne la première moitié d'un couple célèbre. Vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez, c'est enfantin. On peut y aller?
Vous pouvez répéter la question?
Je vous donne un exemple, si vous voulez. Par exemple, je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy.
Hardy.
Voilà. Top chrono, Roméo et...
Inévitable.
Indémodable.
Voilà, Didier Bourdon qui était avec Stéphane Boudsocq donc ce matin pour RTL. La dernière fois que les trois comédiens se sont réunis en 2014 pour les trois frères, c'était pour les trois frères le retour. Un dernier mot de football, la Coupe d'Afrique des Nations pour vous signaler un résultat 0-0 entre l'Algérie et le Sierra Leone.
C'est noté, merci beaucoup Alexandre. Les Inconnus, c'est vraiment le remède à l'amorosité.
C'est clair.
Ambiante. On les attend avec impatience, en tout cas de retour sur scène. À tout à l'heure Alexandre. Le temps, cher Peggy, vous aussi vous avez des bonnes nouvelles,
oui,
c'est pas mal en
exactement,
fait.
Exactement, c'est pas mal parce que c'est le retour des conditions anticycloniques, ça va durer demain également, ça veut dire un temps sec sur l'ensemble du pays, mais couvert toute la journée entre la Bretagne et les Hauts-de-France avec un peu de brume le matin, un beau soleil dès le matin entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes et la Corse. Ailleurs, beaucoup de grisaille en matinée avec dans l'Est en plus du brouillard givrant, donc prudence. Et cette grisaille, elle va se dissiper au fil des heures, un peu comme aujourd'hui, pour laisser place à un beau soleil, mais elle pourrait être tenace partout, par endroit, donc vraiment, c'est pas toujours gagné, surtout vers la plaine d'Alsace, le Val de Saône.
Jamais gagné avec vous.
Oui, bah quand il y a des grisailles, c'est jamais gagné, il faut l'avouer. Ou encore la vallée de la Garonne. Les températures, de nombreuses gelées le matin et des maximales de 2 à Ambérieu, jusqu'à 15 degrés à Toulon, 3 à Nancy, 6 à Paris, Lille et Toulouse, 12 à Perpignan comme à Brest et Bastia.
Merci Peggy. Petite pause et ensuite dans RTL Soir, au moment où l'école et les parents craquent, notre invité Christian Bréchaud, virologue de renommée mondiale, se prête au jeu des questions-réponses avec vous, les auditeurs de RTL. À suivre aussi l'enquête de la brigade RTL, parce qu'elle a poussé les portes d'une salle de classe, capteur de CO2 en main, et les résultats ne sont franchement pas brillants. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL et au moment où Omicron bouleverse votre quotidien, eh bien RTL répond ce soir à toutes vos questions. Elles sont nombreuses, notamment chez les parents d'élèves. Tests, immunité, école, vaccin. Pour vous éclairer, notre invité, un virologue de renommée mondiale. Bonsoir Christian Bréchaud.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes l'un des grands spécialistes des vaccins. Vous dirigez aux États-Unis le Global Virus Network. Vous êtes l'ancien patron de l'Institut Pasteur et de l'INSERM. Et donc avec vous, on va prendre les interrogations de nos auditeurs les unes après les autres. Beaucoup de questions sur nos réseaux sociaux de RTL depuis le début de la journée. D'abord, leur quotidien, ce sont les tests. 10 millions par semaine en ce moment en France. Désormais à l'école, les autotests suffisent pour faire revenir les enfants en classe. On a des parents qui nous demandent si ces autotests sont vraiment fiables. Vous avez un élément de réponse ?
Écoutez,
Il est clair que les autotests sont moins fiables que les tests PCR, en particulier en ce qui concerne Omicron. Mais globalement, ils permettent quand même de donner une bonne idée, si vous voulez, de l'ensemble des contaminations. Donc les autotests ne sont certainement pas parfaits. Ils sont encore une fois moins sensibles que d'autres techniques. Mais par rapport aux questions qui sont posées par les enfants à l'école, je pense que c'est une première approche qui effectivement permet de définir un peu mieux les populations d'enfants infectés.
C'est vrai que le protocole dans l'école française vient encore de changer, on l'a évoqué dans le journal. Un cas positif désormais et c'est 3 autotests en 4 jours pour les camarades. Est-ce que sur le plan sanitaire, ça a du sens? Est-ce que nos enfants sont vraiment protégés avec ce protocole?
Écoutez, je pense qu'il faut dire les choses honnêtement. On est dans une situation extrêmement difficile dans laquelle il n'y a pas de bonne solution avec un grand test. Je crois qu'il faut être honnête. On fait face à une très grande difficulté, aussi bien au niveau du ministère que des enseignants et que les parents. Donc je pense que c'est un compromis qui est acceptable parce que les enfants sont quand même testés à plusieurs reprises. Ouais. Et la répétition des tests, il faut bien le comprendre, est très importante par rapport à votre question sur une moins grande sensibilité. C'est en reproduisant les tests. Si vous voulez, je pense que quand on parle des autotests, je pense que le protocole qui est mis en place est un compromis acceptable, comme je l'ai dit, dans une situation qui est très difficile et pour laquelle il n'y a pas de vraie solution.
Mais il faut que les parents
jouent le jeu. Mais ce que reflète cette difficulté, c'est quelque chose sur lequel, là, on a un désaccord avec les autorités. Il n'y a pas eu l'effort sur les tests diagnostiques qu'il y a eu sur les vaccins. À partir du début de l'été 2020, on avait attiré l'attention sur les tests salivaires. On peut réaliser des autotests à partir du prélèvement salivaire, au même titre que dans le nez. Et tous ces enfants qui sont en train de se mettre dans des conditions vraiment difficiles, les tiges dans le nez, ça fait de la peine, si vous voulez. Je pense que les tests salivaires devraient être beaucoup plus développés et permettraient de mieux répondre à ces tests répétés.
Et le Covid chez un enfant, on a une maman d'élève d'école primaire sur les réseaux sociaux de RTL qui nous demande, c'est vraiment bénin le Covid chez les enfants?
Alors c'est vraiment une bonne question parce que, si vous voulez, les complications dues au Covid chez les enfants sont exceptionnelles. Maintenant, c'est toujours pareil. Comme on a une augmentation très très importante des cas de Omicron, même si les complications sont très rares, eh bien, vous savez qu'on commence à avoir. C'est un tout petit nombre, mais je ne sais pas de mémoire, mais il y a une petite centaine ou peut-être environ d'enfants qui sont hospitalisés. Ça ne va pas du tout forcément dire qu'ils font des formes très graves. Donc il faut retenir que les complications chez les enfants sont exceptionnelles, mais il y en a quand quelques-unes. Et c'est voilà.
Christian Bréchaud, on sait que l'une des armes, alors sans doute pas assez utilisée, c'est l'aération. Depuis ce matin, notre brigade RTL enquête, capteur de CO2 à la main, et vous allez l'entendre, les résultats sont édifiants, restez avec nous. On va accueillir notre reporter Gauthier Delon-Bugard. Bonsoir Gauthier.
Bonsoir à tous.
Alors, transport, restaurant, vous avez mesuré avec votre appareil la qualité de l'air dans les lieux du quotidien. À chaque fois, les seuils depuis ce matin, on l'a entendu sur l'antenne, pour éviter la contamination sont dépassés. Ces dernières heures, votre enquête vous a poussé dans une école élémentaire en région parisienne. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler les recommandations des médecins?
Oui, alors, dans les lieux où le port du masque est exigé, les scientifiques préconisent un taux de CO2 inférieur à 800 ppm, ppm parties par million, c'est l'unité de mesure. Ce taux doit se situer en dessous de 600, là où l'on ne porte pas le masque.
Oui, bonjour, je suis de RTL, j'ai rendez-vous avec la directrice.
Je me rends donc dans une école parisienne.
Bonjour. Voici le fameux capteur de CO2.
Pour prêter mon capteur de CO2, ce petit boîtier blanc, à la directrice.
Alors, dans cette école, quels sont les résultats?
Alors, première mesure dans une salle de classe, la plus spacieuse de l'école. Avant de faire entrer les 24 élèves, l'enseignante ouvre les fenêtres pour aérer. Et pourtant, 10 minutes après le début du cours, le capteur affiche déjà 854 ppm. 45 minutes plus tard, c'est encore pire. Le taux atteint 1308 ppm. La directrice se rend ensuite chez les CP, le même nombre d'élèves dans un plus petit espace. L'enseignante n'aère jamais, prévient la chef d'établissement. Eh bien, ça se vérifie puisque le taux dépasse les 1400 ppm. Une pièce mal ventilée donc, et un risque de contamination décuplé pour les enfants et leur institutrice.
Est-ce que c'est mieux à la cantine ?
Malheureusement non, seules deux classes déjeunent en même temps. Enfants employés, ils sont à peine une quarantaine dans un grand réfectoire. Pourtant, à 11h45, le capteur affiche 746 ppm. Dans ce restaurant scolaire où les élèves ne portent pas le masque, les scientifiques préconisent un maximum de 600.
Comment a réagi la directrice face à ces résultats ?
Eh bien, dans la classe de CP, elle n'est pas étonnée puisque l'enseignante refuse de respecter le protocole sanitaire et n'ouvre jamais les fenêtres. En revanche, dans l'autre salle plus spacieuse, là c'est une surprise. Je ne comprends pas, l'air est saturé alors que nous aérons régulièrement, me confie la directrice. Régulièrement, ce n'est visiblement pas assez. C'est vrai qu'avec le froid, on le fait peut-être moins souvent, pensait-elle.
L'enquête RTL, merci Gauthier de Lombugar, l'enquête de la brigade RTL, donc dans une école, dans des salles de classe, dans une cantine de la région parisienne. Christian Bréchaud, je reviens vers vous, vous notre invité, l'éminent virologue. Ces capteurs de CO2, il faut les généraliser, 20% des écoles seulement équipées avant les vacances.
Écoutez, oui absolument, mais par rapport à votre reportage que je trouve effectivement édifiant, c'est quand même un peu énervant pour être clair, parce que des mesures de bon sens, comme l'aération, ont un effet très positif pour prévenir la dissémination, et je trouve hallucinant d'entendre qu'il y a une enseignante ou un enseignant qui tout simplement refuse donc avec l'aération, avec le port des masques, avec un certain nombre de mesures, on prévient quand même beaucoup, beaucoup de contamination. Donc oui, il faut des capteurs de CO2, absolument, mais il faut également un peu de bon sens.
Alors, vous parliez d'une situation très grave tout à l'heure et dans laquelle il n'y a pas de solution avec un grand S. C'est vrai qu'on a quasiment 300 000 contaminations en moyenne par jour en France. Un francilien sur 25 quasiment positif en ce moment. Et l'OMS nous dit aujourd'hui que 50% des Européens seront infectés d'ici deux mois. Dans ce contexte, on a Nicolas de Corté en Corse qui nous demande sur la page Facebook RTL. Est-ce qu'une fois infecté, parce qu'il est non vacciné, Nicolas, est-ce que je suis tranquille, protégé et combien de temps ?
Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, j'ai dit tout à l'heure que c'était une situation très difficile en termes d'organisation. Il faut rappeler que le Omicron donne clairement des lésions nettement moins sévères. Ouais. Que le Delta et que d'autres. Maintenant, ayant dit ça, malheureusement, comme vous l'avez rappelé, comme on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, c'est toujours pareil. C'est comme la question sur les enfants. Les gens qui ne sont pas vaccinés sont menacés. Par rapport à votre question de la personne qui est non vaccinée, oui, effectivement, si cette personne est infectée, ça lui donnera un certain niveau de protection, on ne sait pas pour longtemps, mais cette personne prend un très gros risque en n'étant pas vaccinée. Je suis désolé d'avoir à rappeler que 80 à 90% des gens qui sont hospitalisés pour des formes graves ne sont pas vaccinés et que la vaccination prévient des formes graves.
Alors, votre réponse appelle une autre question qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux de RTL. À quoi sert la troisième dose ? Parce que je peux quand même tomber malade, nous dit Laurence du côté de Jarny en Lorraine.
Alors, la dose de rappel, elle sert à ce que si on est infecté, on ne fasse pas de formes graves. Si on a été vacciné, si on a eu sa dose de rappel, on peut effectivement, avec Omicron, malheureusement, je dirais, être quand même infecté. Ça m'est arrivé à moi il y a une trois semaines, alors que j'avais eu mes doses de rappel. Il faut quand même dire que même si on peut être infecté, on transmet moins et que la multiplication du virus dure moins longtemps. Mais surtout, moi, quand j'ai été infecté, je savais que je ne ferais pas de forme grave parce que j'avais eu mes trois doses. Alors que s'il y a un an, à mon âge, j'avais eu le Covid, j'aurais été beaucoup plus inquiet. Donc voilà, c'est vraiment ça la réponse. Et c'est pour ça que c'est fondamental d'être vacciné. C'est une prévention des formes graves. C'est, dans une certaine mesure quand même, une prévention d'infection, même si elle est moins absolue. Et même quand on est infecté, on transmet moins.
Et ça permet aussi de protéger l'hôpital par conséquent. Merci Christian Bréchaud. Vous, le virologue de renommée mondiale, ancien patron de l'Institut Pasteur, ancien patron de l'INSERM et aujourd'hui aux États-Unis directeur du Global Virus Network. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur RTL et d'avoir joué à ce jeu de questions-réponses avec les auditeurs qui nous ont écrit toute la journée sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été notre invité.
À vous. Au revoir monsieur.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
Allez, une petite pause et ensuite dans RTL Soir, eh bien, il y aura vos dessous de l'actu RTL aux côtés aujourd'hui d'une élue menacée de mort de retour sur le terrain. Et puis laissez-vous tenter dernière Wistreham avec Juliette Binoche au cinéma demain, mais avec également des femmes devenues actrices du jour au lendemain. Vous l'entendrez, à tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier.
18h31 minutes.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Bonne fin de journée, RTL Soir, effectivement, à vos côtés. On refait un point sur les grands titres de l'actualité, Alexandre de Saint-Aignan.
La promesse d'un jeudi noir pour l'école. Le premier syndicat des enseignants du primaire prévoit 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées pour dénoncer un protocole sanitaire complexe et une communication jugée hasardeuse. Le pass vaccinal entre les mains des sénateurs. Début de l'examen du projet de loi, près de 200 amendements ont été déposés. Les personnels hospitaliers dans la rue cet après-midi pour réclamer plus de moyens. Ils étaient 3000 à Paris selon la CGT alors que l'épidémie continue de progresser. 350 000 nouveaux cas recensés dans les dernières 24 heures.
Merci Alexandre, bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, pour demain.
Un temps sec mais nuageux sur le nord-ouest. Beau ailleurs après dissipation des grisailles matinales même si certaines seront tenaces. Les maximales seront globalement comprises entre 2 et 9 degrés jusqu'à 12 sur les bords de Manche et 15 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir sur RTL, eh bien les dessous des menaces envers les élus. 300 plaintes déposées depuis l'été, chiffre révélé ce matin sur RTL par le ministre Gérald Darmanin. Cet après-midi, on a vu tous les patrons de groupes politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ensemble signer une tribune pour dénoncer, je cite, la montée de la haine. Dans ce contexte, RTL a partagé aujourd'hui le quotidien d'une élue justement menacée de mort. Bonsoir Christian Panvert.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous avez suivi la députée LREM dans le Maine-et-Loire aujourd'hui. Chez elle, elle retrouvait sa circonscription après l'examen houleux du pass vaccinal à l'Assemblée.
Oui, Laetitia Saint-Paul, mariée, mère de deux enfants, officier dans l'armée de terre en détachement, m'a montré ce mail sidérant qu'elle a reçu récemment.
Je vais venir rafaler, les balles vont te traverser, puis je vais te décapiter d'une façon ou d'une autre. Une fois ta tête coupée, je vais me permettre de la prendre et l'éclater par terre.
Comment réagit-on quand on reçoit ce mail?
Que le risque fasse partie du métier militaire, c'était inscrit dans les fonctions. Mais en tant que députée, c'est parfaitement inadmissible.
Alors là, nous sommes chez vous. Ce qui paraît incroyable, c'est que vous avez été obligé d'installer une caméra de surveillance.
Pour gagner en sérénité, tout simplement. D'autant plus que je suis souvent absente et j'ai pas du tout envie d'avoir des mauvaises nouvelles à mon retour de Paris.
Et malgré les menaces, Christian, cette députée, elle ne cède pas, elle refuse de bouleverser son agenda.
Oui, la députée a maintenu tous ses rendez-vous et elle nous dit pourquoi.
J'ai vraiment décidé de pas me laisser impressionner et de poursuivre mes fonctions comme si de rien n'était, si je puis dire.
Alors quand on est dans la rue, comme c'est le cas là, en ce moment, est-ce qu'on y pense, on regarde à droite, on regarde à gauche, on a un peu peur?
Là, je suis focalisée sur mon objectif, donc c'est réussir à ce que mes différentes séquences aujourd'hui soient un succès. Ça ne ternit pas mon quotidien.
Et aujourd'hui à Saumur, elle a rencontré beaucoup de personnes, comme Cindy, qui lui apporte son soutien.
Bah, c'est très bien, parce qu'il faut continuer à vivre et puis pas avoir peur des menaces.
Eh bien oui, là, il y a vraiment une solidarité entre nous. Certains, dans leurs témoignages, le disent. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous portez, mais je sais que vous le portez avec conviction. Et s'il faut venir faire le guet devant chez vous, eh bien, on viendra faire le guet.
Et Laetitia Saint-Paul le répète, quand un élu est menacé, eh bien, ce sont tous les citoyens qui sont visés.
Les dessous du quotidien, en tout cas, de cet élu menacé de mort avec vous, Christian Panvert, ce soir depuis le Maine-et-Loire. Merci.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
À 18h35.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant. Vous le savez, on aime avec la bande de LVT vous donner de beaux conseils pour occuper votre semaine. Allez au cinéma, tiens, demain, ce n'est pas le film le plus réjouissant et rigolo de l'année, mais il est diablement important. Stéphane Boutsock, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous nous conseillez le film Wistreham, réalisé par Emmanuel Carrère, d'après le livre de Florence Omna.
Alors un livre, rappelez-vous que la journaliste avait écrit après des mois d'immersion auprès des femmes et des quelques hommes qui nettoient les cabines de
ferry partant du port de Ouistreham vers l'Angleterre. Florence Obna s'était fait passer pour un agent d'entretien pour en fait partager leur quotidien et nourrir son récit. Dans le film, c'est Juliette Binoche qui joue son rôle entourée d'actrices et d'acteurs, souvent non professionnels d'ailleurs.
Et c'est justement l'une d'entre elles que vous avez rencontrée pour nous.
Elle s'appelle Hélène Lambert. Elle joue le personnage de Christelle dans Ouistreham. Premier rôle évidemment pour cette jeune femme qui brique les cabines des ferries entre deux traversées d'habitude. Question, que connaissait-elle au cinéma avant ce film ?
Bah rien, parce que je connaissais pas. Enfin, j'allais au cinéma comme des personnes lambda, quoi. Mais je pensais pas un jour ou l'autre me retrouver derrière les écrans. Bizarrement, j'étais au beau moment, au beau endroit et à la bonne heure. Parce que je finissais le travail à l'époque et je suis allée redonner ma feuille d'or à ma boîte d'intérim qu'ils étaient là-bas pour faire un casting sauvage, enfin je cherchais des gens. Et en fait, ça s'est fait comme ça, tout simplement.
Oui, tout simplement, sauf que pour le film, Hélène s'est retrouvée face à Juliette Binoche, avec qui elle a de nombreuses scènes, souvent complexes, tendues, émouvantes. Il a donc fallu que l'une, comme l'autre, baisse la garde.
Emmanuel nous a présenté Juliette, je crois, la veille du... Enfin, quelques semaines ou la veille du commencement du tournage. Donc, il y a eu une appréhension, oui et non, de tout le monde. Après, moi, je suis celle-là du groupe où je suis la plus sauvage. Donc, voilà, moi, j'ai dit, ok, c'est Juliette, mais faut pas qu'elle regarde que son nombril, quoi. Et en fait, Juliette, c'est... Je me suis trompée, c'est pas quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un d'adorable, une superbe petite... Un petit bout de bonne femme... Juste génial, qui nous a aidés, qui nous a suivis. Et au jour actuel, on se parle toujours avec Juliette.
Une vraie nature, hein. Hélène Lambert, la découverte de Ouistreham, le film d'Emmanuel Carrère qui sort donc demain au cinéma. Elle n'a rien contre un autre film, voire des autres films. Mais ce qu'elle attend, vous savez là, surtout aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir rentrer à Caen, retrouver ses enfants et son chéri, comme elle dit, encore un petit peu de patience. Ce retour, il est programmé jeudi après la promo.
La sauvage Hélène Lambert, donc dans Ouistreham avec Juliette Binoche. Sacrée rencontre. Oui. Merci beaucoup Stéphane Boutsock.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Petite pause et ensuite on défait le monde dans RTL Soir. Vos 20 minutes d'actu autrement avec l'équipe type. Donc Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Ils sont polyglottes comme vous pouvez le constater. Dans un instant, on va défaire le cerveau des candidats à la présidentielle. À tout de suite.
Ça promet.
On défait le monde. C'est dans un instant sur RTL.